Chapitre 6. Jenna, sœur Coquina, sœur Tamara, Michela, Louise. Le chien à la croix. Ce qui s'est passé derrière le buisson de sauge. Ce fut l'une des plus longues journées de toute sa vie. Il somnola, mais sans jamais s'endormir profondément. Les roseaux faisaient leur office et il commençait à croire qu'avec l'aide de Jenna, il pourrait vraiment sortir d'ici. Il y avait aussi la question de ses revolvers, et il espérait que là aussi elle pourrait l'aider. Il passa les heures qui se traînaient à évoquer l'ancien temps, Gilead et ses amis, le concours de devinettes qu'il avait failli remporter à l'une des foires de la Grande Terre. C'était finalement un autre concurrent qui était reparti avec loi, mais il avait couru sa chance, oh oui. Il pensa à sa mère et à son père. Il pensa à Abel Vanet, qui avait vaille que vaille mené une existence honnête et bonne. Et à Eldred Jonas, qui avait vaille que vaille mené une existence de crapule, jusqu'à ce que Roland le fasse exploser au-dessus de sa selle par une superbe journée dans le désert. Et comme toujours, il pensa à Suzanne. « Si tu m'aimes, alors aime-moi », lui avait-elle dit. Et il l'avait fait. Oui, il l'avait fait. Ainsi passa le temps. À des intervalles qu'il estimait d'une heure, il prenait une tête de roseau sous son oreiller et en grignotait un bout. Ses muscles ne tremblaient plus aussi fort quand le produit passait dans son organisme. Son cœur ne battait plus aussi violemment. Le contrepoison des roseaux n'avait plus besoin de combattre aussi farouchement le poison des petites sœurs, supposait-il. Les roseaux l'emportaient. L'éclat diffus du soleil se déplaça sur les voiles blanches du plafond de soie. Puis, finalement, la pénombre qui semblait toujours plus ou moins régner à hauteur des lits commença à s'élever. Le mur occidental de la longue salle se mit à fleurir des nuances roses tournant à l'oranger du soleil couchant. Ce fut sœur Tamara qui ce soir lui apporta son dîner, de la soupe et de nouveau un sandwich. Elle posa aussi un lys du désert à côté de sa main. Elle sourit et ses joues se colorèrent. Elles étaient toutes éclatantes aujourd'hui, telles des sangsues gorgées de sang au point d'éclater. « De la part de ton admiratrice, Jimmy, » dit sœur Tamara, « elle est si gentille pour toi. Le lys signifie « n'oublie pas ma promesse ». Qu'est-ce qu'elle t'a donc promis, Jimmy, frère de Johnny ?»« Que nous nous reverrions et que nous parlerions. » Sœur Tamara rit tellement fort que les clochettes tintèrent à son front. Elle se prit les mains, au comble de la jubilation presque extatique. « C'est trop mignon, oh oui, trop mignon !» Elle tourna son sourire vers Roland. « Quel dommage qu'une telle promesse n'ait aucune chance d'être tenue. Tu ne la reverras jamais, beau damoiseau !» Elle reprit le bol. « Ainsi en a décidé sœur supérieure. » Elle se redressa, toujours souriante. « Pourquoi ne pas enlever cet affreux sigule ?»« Je n'en ai pas envie. »« Ton frère a enlevé le sien, regarde !» Du doigt, elle lui montra le médaillon d'or qui gisait un peu plus loin, à l'endroit où il avait atterri quand Ralph l'avait jeté. Sœur Tamara le regarda, souriant toujours. Il a compris que c'était une des raisons pour lesquelles il était encore malade, et il l'a jeté. « Si tu étais sage, tu l'imiterais. » « Je n'en ai pas envie, » répéta Roland. « Bon, » dit-elle sans insister, le laissant seul au milieu des lits vides qui luisaient dans la pénombre grandissante. Roland résista, en dépit d'une envie grandissante de dormir, jusqu'à ce que les brûlantes traînées de sang qui coloraient les parois occidentales de l'infirmerie aient pris des nuances de cendre. Il grignota alors un morceau de roseau et sentit que la force, une vraie force, pas un substitut qui l'aurait agité et lui aurait fait cogner le cœur, envahissait son corps. Il regarda l'endroit où le médaillon luisait, dans ce qui restait de lumière, et fit à John Norman la promesse, en silence, de le rendre avec l'autre à sa famille, si le cas voulait bien qu'il la rencontrât au cours de ses voyages. Se sentant complètement libre d'esprit pour la première fois de la journée, le pistolero se laissa aller à somnoler. Lorsqu'il se réveilla, il faisait nuit noire. Les mets d'insectes stridulaient avec une vigueur qui vrillait les oreilles. Il venait de prendre une tête de roseau sous son oreiller et commençait à la grignoter lorsqu'une voix froide s'éleva soudain. « Tiens donc, Sœur supérieure avait raison. On avait ses petits secrets. » Roland crut bien que son cœur s'arrêtait dans sa poitrine. Il regarda autour de lui et vit sœur Coquina qui se remettait debout. Elle s'était coulée à l'intérieur de l'infirmerie pendant qu'il somnolait et cachée sous le lit voisin pour l'observer. « Comment t'es-tu procuré cela ? » demanda-t-elle. « Est-ce que c'est moi qui le lui ai donné ?» Sœur Coquina fit volte-face. Jenna s'avançait vers eux dans l'allée. Elle ne portait plus son habit, dont elle n'avait gardé que la guimpe avec sa frange de clochette, mais l'ourlet du voile reposait sur ses épaules. Elle avait endossé une chemise à carreaux. En dessous, elle portait un jean et des bottes éraflées. Elle tenait quelque chose à la main. Il faisait trop noir pour que Roland pût distinguer l'objet, mais il lui sembla bien. « Ah, c'est toi !» siffla à voix basse sœur Coquina, une haine infinie dans la voix. « Quand je le dirai à sœur Marie, tu ne lui diras rien du tout !» intervint Roland. S'il avait calculé comment se dégager du réseau de sangles dans lequel il était enserré, il s'y serait sans aucun doute très mal pris. Mais comme toujours, le pistolero s'en sortit mieux en agissant à l'instinct. Il libéra ses bras en un instant, sa jambe gauche de même, mais sa droite resta prise à hauteur de la cheville tordue dans une sangle, et il resta suspendu par le pied alors que ses épaules et son dos reposaient sur le lit. Sœur Coquina se tourna, sifflant comme un chat. Elle retroussa les babines sur des dents pointues comme des aiguilles et se précipita vers lui, doigts écartés. Au bout, les ongles étaient effilés et éraillés. Roland saisit son médaillon et le brandit vers elle. Elle eut un mouvement de recul, sifflant toujours, et se retourna vers sœur Jenna dans un envol de jupons blancs. « C'est toi qui vas y avoir droit, espèce d'ignoble traîtresse » gronda-t-elle d'une voix rauque et basse. Roland se débattait pour libérer sa cheville sans y parvenir. Elle était bien prise, la foutue sangle s'étant entortillée autour d'elle comme un nœud coulant. Jenna leva les mains, et Roland vit qu'il avait raison. Elle avait apporté ses revolvers, toujours dans leurs étuis, et accrochés aux deux vieux ceinturons qu'il avait sauvés du dernier incendie de Gilead. « Descends là, Jenna, tire !» Mais, tenant toujours les revolvers levés, Jenna secoua la tête comme le jour où Roland lui avait demandé d'ôter sa guimpe pour voir ses cheveux. Les clochettes retentirent avec une intensité sonore qui lui donna l'impression de lui percer le tympan. Les clochettes noires, le sigule de leur cas-tête, qu'est-ce ? Les stridulations des mets d'insectes devinrent suraigus, un son flûté et aigre qui ressemblait surnaturellement à celui des clochettes et n'avait plus aucune douceur. Les mains de sœur Coquina hésitèrent et n'atteignirent pas la gorge de Jenna. Quant à celle-ci, elle n'avait même pas froncé un sourcil ou cligné des yeux. « Non, dit sœur Coquina, tu ne peux pas. Si, répondit Jenna. Sur quoi Roland vit les bestioles. Il avait observé, descendant le long des jambes du barbu, un bataillon. Ce qu'il voyait à présent sortir des ombres était une armée à anéantir toute armée. S'il s'était agi d'hommes et non d'insectes, il y en aurait eu davantage que tous ceux qui avaient porté les armes au cours de la longue et sanglante histoire de l'entre-deux-mondes. Cependant, ce ne serait pas le spectacle de leur progression sur le plancher de l'allée que Roland se rappellerait toujours, ni qui hanterait ses rêves à venir pendant plus d'un an. Mais la manière dont les insectes engloutissaient les lits. Ils les transformaient en sépulcres noirs deux par deux, de part et d'autre de l'allée, et on aurait dit deux rectangles faiblement lumineux envahis par les ténèbres. Sœur Coquina hurla et se mit à secouer la tête pour faire retentir ses clochettes. Leur tintement était faible et sans effet comparé au vacarme strident des clochettes noires. Les insectes continuaient leur progression, noircissant le plancher, noircissant les lits. Jenna s'élança, laissant sœur Coquina sur place, posa les revolvers du pistolero à côté de lui et dénoua la sangle entortillée d'une seule et vigoureuse secousse. La jambe de Roland se dégagea. « Viens, dit-elle, je les ai lancés, mais les arrêter ne serait pas aussi facile. » Maintenant, sœur Coquina ne hurlait plus de peur mais de douleur. Les insectes l'avaient trouvée. « Ne regarde pas, » dit Jenna en aidant Roland à se lever. Il se dit que jamais de sa vie il n'avait été aussi content de pouvoir se mettre debout. « Viens vite, nous devons nous presser, elle va alerter les autres. J'ai caché tes bottes et tes vêtements à proximité du chemin qui nous emmènera loin d'ici. J'ai pris tout ce que j'ai pu. Comment te sens-tu ? Es-tu solide ? » ?»« Oui, grâce à toi. » Pendant combien de temps allait-il se sentir aussi fort, il l'ignorait, et pour le moment la question était rhétorique. Jenna s'empara de deux têtes de roseau. Il les avait éparpillées partout sur le haut du lit lorsqu'ils s'étaient débattus pour se libérer des sangles, et ils filèrent par l'allée, fuyant les insectes et sœur Coquina, dont les cris devenaient moins insistants. Roland boucla ses ceinturons sans ralentir le pas. Ils ne passèrent que devant trois rangs de deux lits avant d'atteindre le rabat de la tente, car il constata que l'infirmerie était bien une tente et non un vaste pavillon. Murs et toits de soie effilochés laissaient passer un peu de la lumière d'une lune aux trois quarts pleines. Et les lits n'étaient pas de vraies couches, mais de simples et médiocres lits de camp. Il se tourna avant de sortir et vit une masse se tordre sur le sol là où s'était trouvée sœur Coquina. En la voyant, une pensée désagréable lui vint soudain à l'esprit. « J'ai oublié le médaillon de Norman. » Un sentiment aigu de regret, presque de deuil, le traversa comme un vent froid. Jenna glissa la main dans sa poche de jean et en retira le rectangle d'or. Il brillait au clair de lune. « Je l'ai ramassé. » Il n'aurait su dire ce qui lui faisait le plus de plaisir, la vue du médaillon ou le fait qu'elle pût le tenir dans sa main. Cela signifiait qu'elle n'était pas comme les autres. Puis, comme pour corriger cette erreur avant qu'elle ne s'ancre trop en lui, elle dit « Prends-le, Roland. J'ai de plus en plus de mal à le garder. » Et lorsqu'il s'en saisit, il vit des marques caractéristiques de brûlures sur ses doigts. Il lui prit la main et déposa un baiser sur chacune des brûlures.
« Merci. Oh, merci !»
Il vit qu'elle pleurait.
« Merci, Roland. Rien n'est plus doux que des baisers. Cela vaut toutes les souffrances. Maintenant !»
Roland vit ses yeux se détourner et suivit son regard. Des lumières dansantes venaient d'apparaître sur le chemin rocheux conduisant au quartier d'habitation des petites sœurs. Non pas un couvent, mais une hacienda en ruine qui avait l'air d'avoir 1000 ans. Il compta 3 bougies. Tandis qu'elle se rapprochait, Roland constata qu'il n'y avait que 3 des sœurs. Sœur Marie n'était pas parmi elles. Il dégaina ses revolvers.
« Oh oh, mais c'est un pistolero, un vrai, sœur Louise !» « Un homme redoutable, sœur Michela. Et il a trouvé ses armes, en plus de la dame de son cœur, sœur Tamara, sa pute, sœur Louise. »
Rire furieux, mais pas effrayé. Pas par ses armes, en tout cas.
« Range-les, »
lui dit Jenna, mais quand elle le regarda, elle vit qu'il l'avait déjà fait. Les autres, pendant ce temps, s'étaient rapprochés.
« Oh, elle pleure, la pauvre !» s'écria sœur Tamara. « Et elle a jeté sa robe aux orties, » dit sœur Michela. « C'est peut-être le reniement de ses vœux qu'elle pleure. »« Pourquoi ses larmes, ma jolie ?» demanda sœur Louise.
« Parce qu'il m'a embrassé les doigts, là où je m'étais brûlée, » répondit Jenna. « On ne m'avait jamais embrassée auparavant. C'est ce qui m'a fait pleurer. »«
Oh, charmant ! La prochaine fois, il va lui mettre son truc dedans, encore plus charmant !»
Jenna supporta ses piques sans donner signe de colère. Quand elles en eurent assez, elle leur dit « Je pars avec lui. Écartez-vous !» Elles restèrent quelques instants bouche bée, sous le choc. Fini, rires et sarcasmes.
« Non !» siffla sœur Louise. « Es-tu devenue folle ? Tu sais pourtant ce qui va arriver. Non, et vous non plus ?»« Et puis je m'en fiche !»
Jenna se tourna et tendit la main vers l'entrée de la vieille tente d'hôpital. La toile était d'une teinte vert-olive pisseuse, au clair de lune, et avait une croix rouge délavée sur le toit. Roland se demanda combien de villes et de bourgs les petites sœurs avaient écumé avec cette tente, si petite et ordinaire vue de l'extérieur, si vaste et pleine d'une glorieuse pénombre claire à l'intérieur. Combien de villes et de bourgs, et pendant combien d'années ? Engorgeant l'entrée de la tente et lui faisant une langue noire et brillante, les mets d'insectes venaient d'apparaître. Ils avaient arrêté leur chant. Ce silence était terrible.
« Écartez-vous, ou je les lance sur vous !»«
Tu n'oseras pas !»
s'écria sœur Tamara d'une voix basse et horrifiée.
« Oh que si ! Je les ai déjà lancés sur sœur Coquina. Elle fait partie de leur traitement, à présent. »
Le soupir qu'elles poussèrent fut comme un vent glacé soufflant parmi des arbres morts. Et leur épouvante n'était pas simplement due à ce qu'elles craignaient pour leur précieuse peau. Ce que Jenna venait de faire allait pour elle bien au-delà du concevable.
« Alors, tu es damnée !» dit sœur Tamara. « C'est vous qui parlez de damnation ? Écartez-vous »
Elles se mirent de côté. Roland passa devant les 3 petites sœurs qui eurent un mouvement de recul, mais celui-ci fut encore plus grand devant Jenna.
Damné ! S'étonna Roland lorsqu'ils eurent contourné l'hacienda et atteint le chemin de l'autre côté. Les rayons de lune brillaient sur le chaos de rochers au bas des falaises. Roland aperçut une petite ouverture à son pied. Il supposa que c'était ce que les sœurs appelaient la maison des méditations. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ?
Oh, c'est sans importance. La seule chose dont nous avons à nous inquiéter à présent, c'est de sœur Marie. Elle n'était pas avec les autres. Je n'aime pas trop ça.
Elle accéléra le pas, mais il la prit par le bras et l'obligea à se tourner vers lui. Il entendait encore la stridulation des insectes, mais faiblement. Il laissait derrière eux le repère des petites sœurs. Et Luria aussi, si la boussole qu'il avait dans la tête fonctionnait encore. La ville, estimait-il, devait être située dans la direction opposée, la coquille vide de la ville, se corrigea-t-il. « Dis-moi ce qu'elle a voulu dire. »«
Rien, peut-être. »« Ne me le demande pas, Roland. Qu'est-ce que ça change ? C'est fait, j'ai coupé les ponts derrière moi. Je ne peux pas changer d'avis. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas. »
Elle baissa les yeux, se mordillant la lèvre. Et lorsqu'elle releva la tête, Roland vit que de nouveau ses larmes coulaient.
« J'ai partagé leur... repas. Il y avait des moments où j'étais incapable de m'en empêcher. Pas plus que tu n'as pu t'empêcher de manger leur saleté de soupe alors que tu savais ce qu'il y avait dedans. »
Roland se souvint de Norman, lui disant qu'un homme devait manger, et une femme aussi.
« C'est une voie que je ne veux plus suivre. Si je dois être damné, que ce soit parce que je l'aurais choisi, moi et pas elle. Ma mère a cru bien faire en me ramenant chez elle, mais elle a eu tort. »
Elle se tourna vers lui, de la timidité et de la crainte dans les yeux, mais soutint son regard.
« Je marcherai à tes côtés sur ta route, Roland de Gilead, aussi longtemps que je le pourrai, ou aussi longtemps que tu voudras de moi.
Si tu veux partager ma route, sois la bienvenue, Jenna, et ta présence sera une bénédiction pour moi. » Voilà comment il avait eu l'intention de finir sa phrase. Mais une voix s'était élevée, provenant du chaos de rochers et d'ombres, devant eux, là où le sentier entamait l'escalade de la vallée rocailleuse et stérile, dans laquelle les petites sœurs avaient mis en pratique leur technique particulière de séduction.
« Il est bien triste de se mettre en travers d'un enlèvement aussi romantique, mais c'est mon devoir et j'entends le faire. »
Sœur Marie sortit de l'ombre. Son habit soyeux et blanc à la rose d'un rouge éclatant sur le plastron avait cédé la place à ce qu'il était réellement, le suaire d'un cadavre. Emprisonné et encapuchonné dans ses plis sinistres, il y avait un visage couvert de rides aux traits affaissés, au fond duquel deux yeux noirs les regardaient fixement tels deux dattes pourries. En dessous, exhibés par le sourire de la créature, quatre grandes incisives brillaient. Sur la peau desséchée de son front, des clochettes tintaient, mais pas les clochettes noires, se dit Roland. C'était toujours ça.
« Écarte-toi, dit Jenna, ou je lance les cantam sur toi. »«
Non, répondit sœur Marie en se rapprochant de quelques pas. Tu n'y arriveras pas, ils ne s'éloigneront pas autant des autres. Secoue ces maudites clochettes autant que tu veux, jusqu'à ce qu'elles tombent même, ils ne viendront pas. »
Jenna répondit à cette provocation en secouant furieusement la tête d'un côté et de l'autre. Le tintement des clochettes noires perçait non seulement les tympans, mais donnait à Roland l'impression que leur timbre presque psychique lançait ses pics jusqu'au centre de sa tête. Et les mets d'insectes, ceux que Jenna avait appelés les cantam, ne vinrent pas. Souriant encore plus largement, Roland soupçonnait sœur Marie de ne pas avoir été tout à fait sûre qu'il ne viendrait pas. Le cadavre de femme se rapprocha d'eux. On aurait dit qu'elle flottait au-dessus du sol. Ses yeux se portèrent sur le pistolero.
« Et toi, range ça !»
Roland se rendit compte qu'il tenait un de ses revolvers à la main. Il ne se souvenait pas de l'avoir dégainé.
« À moins d'avoir reçu la bénédiction, ou d'avoir été plongé dans le fluide sacré d'une secte sans eau ou semence. » Il ne peut rien contre moi, pistolero, car je suis davantage faite d'ombre que de substance, et cependant, l'égal d'être comme toi. »
Elle croyait qu'il allait de toute façon tirer. Il le comprit à son regard. « Ces revolvers sont tout ce que tu as, » disaient les yeux du vampire. « Sans eux, tu pourrais aussi bien retourner dans la tente dont nous avons tissé le rêve autour de toi,
prisonniers de nos sangles et attendant notre bon plaisir. »
Mais au lieu de tirer, il laissa retomber l'arme dans son étui et se lança sur elle, main tendue. Sœur Marie émit un cri, avant toute surprise, qui fut abruptement interrompu. Les doigts du pistolero s'étaient refermés sur sa gorge et l'avaient réprimé avant qu'il pût vraiment se déployer. Le contact de cette chair avec quelque chose d'obscène. Elle semblait non seulement vivante, mais variable, comme si elle essayait de lui échapper par reptation. Il la sentait, refluer comme un liquide, s'écouler, et la sensation était d'une horreur qui dépassait toute description. Il n'en serra pas moins de toutes ses forces, déterminé à la faire mourir étouffée. Il y eut alors un éclair bleu. Pas dans l'air, pensa-t-il plus tard. Cet éclair unique s'était produit dans sa tête, comme si elle avait déclenché une brève mais violente décharge cérébrale, et ses mains se détachèrent du cou de Sœur Marie. Un instant, ses yeux éblouis virent 10 grands sillons humides dans la chair grise qu'il venait de lâcher, des sillons ayant la forme de ses doigts. Puis il fut projeté en arrière et retomba sur le dos, contre l'éboulis, sa tête heurtant suffisamment fort un rocher qui dépassait pour provoquer un deuxième éclair, moins fort cette fois.
« Mais non, beau damoiseau » dit-elle en grimaçant et riant, une expression sinistre dans ses yeux morts. « On n'étrangle pas celle de mon espèce. Et je vais te faire chèrement payer ton impertinence, te faire 100 petites coupures pour étancher ma soif. Mais je vais commencer par cette fille parjure, et je récupérerai ces maudites clochettes par la même occasion.
Viens donc essayer !» cria Jenna d'une voix tremblante en secouant la tête.
Les clochettes noires tintèrent, moqueuses, provocantes. Le sourire grimaçant s'évanouit de la figure de Sœur Marie.
« Oh, je peux » siffla-t-elle.
Sa bouche s'ouvrit toute grande. Au clair de lune, ses crocs brillaient dans ses gencives comme des aiguilles d'os plantées dans un coussin rouge.
« Non seulement je peux, mais je... »
Du haut du rocher, un grondement leur parvint. Il s'éleva, puis se fractionna en une rafale d'aboiements rageurs. Marie se tourna sur sa gauche, et dans l'instant qui précéda le bond que fit la créature, Roland put voir une expression effarée se peindre sur le visage de sœur supérieure. L'animal se jeta sur elle. Simple forme obscure sur fond d'étoile, ses pattes tendues lui donnant vaguement l'air d'une chauve-souris monstrueuse. Mais avant même qu'il se fût abattu sur la poitrine de la femme, avant même qu'il eût planté ses crocs dans la gorge offerte, Roland savait déjà ce qu'il était. Tandis que l'assaillant la renversait sur le dos, Sœur Marie poussa un cri inarticulé qui s'enfonça aussi cruellement dans la tête du pistolero que le tintement des clochettes noires. Il se remit sur ses pieds, la respiration haletante. La chose sortie de l'ombre déchira ce que ses crocs avaient saisi, pattes avant de part et d'autre de la tête du vampire, pattes arrière posées sur le linceul, à hauteur de l'emplacement de la rose. Roland prit Jenna par la main. Elle regardait la sœur à terre avec une fascination qui la laissait pétrifier.
« Viens !» lui cria-t-il, « avant qu'il ne décide de s'en prendre aussi à toi !»
Le chien ne fit pas attention à eux quand ils passèrent à côté de lui. Il avait pratiquement fini d'arracher la tête de sœur Marie. Ses chairs semblaient se transformer, sans doute se décomposaient-elles très vite, mais de toute façon, Roland préférait ne pas assister à ce qui se passait et ne voulait pas non plus que Jenna le vît. Moitié marchant, moitié courant, ils arrivèrent sur la crête où ils s'arrêtèrent pour reprendre leur respiration, au clair de lune, tête baissée, se tenant toujours par la main, respirant tous les deux à grandes bouffées. Grognements et jappements s'étaient peu à peu estompés, mais ils étaient encore audibles, faiblement, lorsque sœur Jenna releva la tête et demanda
« Qu'est-ce que c'était ? Je sais que tu le sais, je l'ai vu sur ta figure. Et comment a-t-il pu l'attaquer ? Nous avons toutes des pouvoirs sur les animaux, et c'est elle qui en avait le plus. »
Pas sur celui-ci.
Roland se souvint du malheureux garçon dans le lit voisin du sien. Norman ignorait ce qui maintenait les petites sœurs à distance, si c'était l'or ou le dieu. Roland, à présent, connaissait la réponse. C'était un chien, un simple chien de village. Je l'ai vu sur la place peu avant que les Manonverts ne m'assomment et ne me livre aux sœurs. Je suppose que les autres animaux qui ont pu s'enfuir se sont enfuis, mais pas celui-ci. Il n'avait rien à craindre des petites sœurs d'Eluria, et par je ne sais quel mystère, il le savait.
Il porte le signe de l'homme Jésus sur sa poitrine. Fourrure noire sur blanche. Un simple accident de naissance, sans doute. Toujours est-il que c'en est fait d'elle. Je savais qu'il rôdait dans les parages. Je l'ai entendu aboyer deux ou trois fois.
Mais pourquoi? Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il resté ici? Et surtout, pourquoi s'est-il jeté sur elle de cette façon?
Roland de Gilead répondit comme il l'avait toujours fait et le ferait toujours lorsqu'on lui posait des questions aussi confondantes, aussi inutiles. Le cas. Viens, essayons d'aller aussi loin que possible avant de nous cacher pour la journée. Aussi loin que possible n'excéda pas 8 000 tout au plus, et probablement bien moins, se dit le pistolero lorsqu'ils se coulèrent derrière un buisson odorant de sauge qui poussait sous un surplomb rocheux. Seulement 5 000, peut-être. C'était lui qui les ralentissait, ou plutôt les derniers effets du poison qui avaient accompagné les soupes. Quand il devint évident qu'il ne pourrait faire un pas de plus seul, il lui demanda un roseau. Elle refusa, expliquant que le produit risquait de se combiner aux efforts inhabituels qu'il venait de fournir et que son cœur pourrait lâcher. « Sans compter, ajouta-t-elle, tandis qu'ils s'allongeaient au fond de leur petit refuge, qu'elles ne vont pas nous suivre. Les trois dernières, Michela, Louise, Tamara, vont plier bagages et aller plus loin. Elles savent quand il vaut mieux partir. C'est pourquoi les petites sœurs ont survécu aussi longtemps. Que nous avons survécu aussi longtemps. Nous sommes fortes à bien des titres, mais faibles à de plus nombreux titres encore. Sœur Marie l'a oublié. Elle a été tout autant victime de son arrogance que du chien à la croix, je pense. Elle avait dissimulé non seulement les bottes et les vêtements de Roland au-delà de la crête, mais également la plus petite de ses deux sacoches. Lorsqu'elle voulut s'excuser de n'avoir pu prendre son matelas roulé et l'autre sacoche, elle avait essayé, mais cela faisait trop de poids. Roland la fit taire en lui mettant le doigt sur les lèvres. Il considérait que c'était déjà un miracle d'avoir retrouvé autant de choses. Sans compter, ce qu'il ne dit pas mais qu'elle soupçonnait peut-être, que les revolvers étaient les seuls objets qui comptaient vraiment. Ils avaient appartenu à son père et au père de son père. Ils remontaient à l'époque d'Arthur Eld, l'époque où les rêves et les dragons parcouraient encore la terre. « Est-ce que ça ira ?» lui demanda-t-il lorsqu'ils furent installés. La lune s'était couchée, mais il restait encore au moins 3 heures avant l'aube. La sauge embaumait l'air de son odeur mauve. Voilà quelles étaient ses sensations alors, et l'impression qu'il en a gardée. Elle créait une sorte de tapis magique sous lui, un tapis sur lequel il ne tarderait pas à dériver dans le sommeil. Jamais, se dit-il, il ne s'était senti aussi fatigué.
Je ne sais pas, Roland.
Mais même alors, elle devait déjà savoir. Sa mère l'avait ramené une première fois. Il n'y avait plus personne pour la ramener une seconde. Et elle avait mangé avec les autres, partagé la communion des petites sœurs. Le cas était une roue, mais aussi un filet auquel personne n'avait jamais échappé. Sur le moment, il était trop fatigué pour s'attarder sur toutes ces choses. Et quel bien cela lui aurait-il fait, de toute façon? Comme elle l'avait dit, elle avait coupé les ponts. Roland supposait que même s'il retournait dans la vallée, il n'y trouverait plus rien, sinon la grotte que les sœurs avaient appelée « maison des méditations ». Les survivantes auraient replié la tente au cauchemar et seraient reparties dans le tintement des clochettes et la stridulation des insectes portés par la brise du soir. Il la regarda, leva une main qui lui paraissait de plus en plus lourde et toucha la boucle qui retombait une fois de plus sur son front. Jenna eut un petit rire gêné.
Elle s'échappe toujours. C'est une rebelle, comme sa maîtresse.
Elle porta la main à son front pour la remettre en place, mais Roland arrêta son geste. Elle est magnifique, dit-il, noire comme la nuit et aussi belle que l'éternité. Il se redressa, non sans mal. La fatigue tirait sur son corps d'une poigne douce mais impitoyable. Il embrassa la boucle. Elle ferma les yeux et soupira. Il la sentit qui tremblait sous ses lèvres. Elle avait le front très frais et la courbe noire de la mèche rebelle était comme de la soie. « Enlève ta guimpe, comme l'autre fois. » Elle s'exécuta sans rien dire.
Il se contenta de la regarder pendant un moment. Elle lui rendit son regard, l'air grave, sans le quitter un instant des yeux. Il fit courir ses doigts dans la chevelure sombre, éprouvant la douceur de son poids, comme de la pluie, pensa-t-il, de la pluie avec du poids. Puis la prit par les épaules et l'embrassa sur chaque joue. Puis s'éloigna un peu. « Veux-tu m'embrasser comme un homme embrasse une femme, Roland ? Sur la bouche ?»«
Oui, Da. »
Et comme il l'avait imaginé pendant qu'il gisait, prisonnier des sangles, dans l'infirmerie de soie, il baisa ses lèvres. Elle lui rendit son baiser avec la délicieuse maladresse de celle qui n'a jamais été embrassée ainsi, sauf peut-être dans ses rêves. Roland aurait voulu lui faire l'amour, cela faisait longtemps, bien longtemps, et elle était ravissante. Mais au lieu de cela, il s'endormit au milieu de leur baiser. Il rêva du chien à la croix, courant et aboyant au milieu d'un paysage ouvert et vaste. Il le suivait, désirant connaître la raison de son agitation. Ça ne tarda pas. À l'autre bout de l'immense plaine se dressait la tour sombre, sa pierre noircie de fumée soulignée par la boule d'un oranger calciné du soleil couchant, la procession de ses redoutables fenêtres s'élevant en spirale. À sa vue, le chien s'immobilisa et se mit à hurler. Des cloches, particulièrement stridentes et aussi terrifiantes que la fin du monde, commencèrent à sonner. Des cloches noires, comme il le savait, mais leur timbre était aussi clair que celui de l'argent. À leur tintement, les fenêtres obscures de la tour s'éclairèrent d'une lueur mortelle rouge, le rouge des roses empoisonnées. Un cri exprimant une douleur insupportable s'éleva dans la nuit. Le rêve se dissipa en un instant, mais le cri demeura, se réduisant à un gémissement. Cette partie-là était réelle, aussi réelle que la tour, ruminant ses rêves tout au bout de fin du monde. Roland retomba dans la lumière éclatante de l'aube, et les douces odeurs mauves de la sauge du désert. Il avait dégainé ses deux revolvers et était debout avant de s'être tout à fait rendu compte qu'il s'était réveillé. Jenna avait disparu. Ses bottes étaient posées à côté de la sacoche de Roland. Son jean traînait par terre un peu plus loin, l'air aussi abandonné qu'une mue de serpent. Avec juste au-dessus sa chemise. Chemise qui était, constata Roland avec stupéfaction, encore enfoncée dans le pantalon. À quelques pas de là gisait la guimpe, vide, la frange de clochette noire reposant sur le sol poudreux. Il crut un moment qu'elle tintait, se méprenant sur le son qu'il entendait. Non, pas des clochettes. Des insectes. Les mets d'insectes. Il chantait dans la sauge, rappelant un peu les grillons, mais en infiniment plus doux. Jenna ? Pas de réponse. Ou alors, c'était les insectes qui répondaient. Par leur stridulation qui soudain s'interrompirent. « Jenna ?» Rien, sinon le vent et le parfum de la sauge. Sans penser à ce qu'il faisait, réfléchir à tête reposée comme jouer la comédie n'était pas trop son truc. Roland se pencha, ramassa la guimpe et la secoua. Les clochettes noires tintèrent. Pendant quelques instants, il ne se passa rien. Puis un millier de minuscules créatures noires sortirent à toute vitesse de la sauge, se rassemblant sur les irrégularités du sol. Roland revit le bataillon qui battait en retraite du lit du bouvier barbu et recula d'un pas. Puis campa sur sa position. Comme, vit-il, les insectes campaient sur la leur. Il croyait comprendre. Une partie de cette compréhension provenait d'un souvenir, la sensation de la peau de sœur Marie sous sa main, l'impression qu'elle lui avait donnée de s'agiter, comme s'il n'y avait pas une chose dessous, mais une quantité de choses. Et une autre partie provenait de ce que Jenna avait dit. J'ai soupé avec elle. De tels êtres ne mouraient peut-être jamais, mais ils pouvaient se métamorphoser. Les insectes tremblaient, nuages noirs ondoyant sur la terre blanche poudreuse. Roland secoua de nouveau les clochettes. Un frisson parcourut l'amas noir, à peine une vaguelette, puis les insectes commencèrent à prendre une forme. Ils hésitaient, comme s'ils ne savaient trop comment s'y prendre, se regroupaient et recommençaient. Ce qu'ils finirent par dessiner sur la blancheur du sable, entre les grappes de fleurs de sauge mauve, était l'une des grandes lettres C. Sauf que ce n'était pas une lettre, comprit le pistolero, mais une boucle. Ils se mirent à striduler, et ce fut pour Roland comme s'ils chantaient son nom. Les clochettes tombèrent de ses mains sans force, et lorsqu'elles touchèrent le sol, retentissant une dernière fois, la masse des insectes se rompit et se mit à courir dans tous les sens. Il pensa les rappeler, peut-être en faisant tinter les clochettes, mais dans quelle intention? Dans quel but? Ne me le demande pas, Roland. C'est fait. J'ai coupé les ponts derrière moi. Et néanmoins, elle était venue une dernière fois vers lui, imposant sa volonté à un millier de parties séparées qui perdraient la capacité de penser quand l'ensemble aurait perdu sa cohésion. Et pourtant, d'une certaine manière, elle avait pensé suffisamment pour prendre cette forme. Quels efforts cela lui avait-il coûté? Les insectes se dispersaient de plus en plus. Certains disparaissaient dans le massif de sauge, d'autres arpentaient les rebords du rocher en surplomb, se réfugiant dans des fissures pour y attendre, peut-être, la chaleur du jour. Ils étaient partis. Elle était partie. Roland s'assit à terre et porta les mains à son visage. Il crut qu'il allait pleurer. Puis son envie finit par passer. Lorsqu'il releva la tête, ses yeux étaient aussi secs que le désert qui était sa destination et où il suivrait encore les traces de Walter, l'homme en noir. « Si je dois être damné, avait-elle dit, que ce soit parce que je l'aurais choisi, moi, et pas elle. » Lui-même ne savait que peu de choses de la damnation, et il avait le sentiment que la leçon, loin d'être achevée, ne faisait en réalité que commencer. Elle lui avait apporté la sacoche qui contenait son tabac. Il se roula une cigarette qu'il fuma, accroupi. Il tira dessus jusqu'à la réduire à un mégot rougeoyant, sans cesser de regarder les vêtements vides, se souvenant du regard calme de ses yeux sombres, se souvenant des marques de brûlure laissées sur ses doigts par la chaîne du médaillon. Et malgré cela, elle l'avait ramassé parce qu'elle savait qu'il le voulait. Pour lui, elle avait affronté la douleur. Et Roland, après avoir réparé la chaîne de celui de Norman, portait maintenant les deux médaillons autour du cou. Lorsque le soleil fut haut dans le ciel, le pistolero prit la direction de l'ouest. Il finirait bien par trouver un cheval ou une mule, mais pour le moment, il prenait plaisir à marcher. Pendant toute cette journée, un tintement et une stridulation vinrent titiller ses oreilles, un son comme des clochettes. Il s'arrêta plusieurs fois pour regarder autour de lui, certain qu'il allait apercevoir une masse noire roulée dans son sillage sur le sable, lancée à ses trousses comme sont lancées à nos trousses les ombres de nos meilleurs et de nos pires souvenirs. Mais il ne vit jamais rien. Il était seul dans les collines basses à l'ouest d'Eluria. Tout à fait seul.